Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Drew et je suis accompagné de Elodie. Bonjour Elodie.
Salut Drew.
Et nous accueillons aujourd'hui Vincent Bonnard et Hunt Margaria, qui sont tous les deux rédacteurs en chef de Plateau. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Bonjour Prestigeux.
Les auditeurs les plus assidus se rappelleront que nous avons déjà interviewé Plateau il y a de ça quelques années. C'était en 2017 et c'était Hélène Gravelot, donc à qui vous succédez, je suppose. On reviendra sur tout ça dans quelques instants. Nous avons, pour les interviews de Cannes, une petite tradition au sein de Proxy Jeux. Nous avons des questions fil rouge pour apprendre un peu à vous connaître. Et comme nous sommes à Cannes, la cité du cinéma, ces questions sont orientées film. Vous pouvez répondre chacun votre tour, vous pouvez développer si vous voulez ou juste donner votre réponse, c'est juste pour apprendre un peu à vous connaître. Donc pour vous, Cannes, c'est plutôt Les Dents de la Mer ou La Cité de la Peur?
Plutôt Les Dents de la Mer.
Plutôt La Cité de la Peur.
Ah, un bon complément.
Pour vous, la préparation du salon, c'est plutôt Mission Impossible ou La Vie est Belle?
Mission Impossible.
Mission Impossible aussi.
Et pour venir à Cannes, c'est plutôt le dernier train pour Busan ou y a-t-il un pilote dans l'avion?
Dernier train pour Busan, mais sans les légers problèmes qu'ils ont dans le film.
Oui, ou y a-t-il un pilote dans l'avion aussi, ça peut.
Et pour le logement, c'est plutôt camping ou La Folie des Grandeurs?
Ah, c'est des extrêmes, hein, il faut choisir. Ouais,
C'est pas évident, plutôt camping. Quand on voit l'appart qu'ils ont créé à Spiral Game, en comparaison, c'est plutôt camping.
Et plutôt camping aussi.
Et pour vous, le jeu à deux, c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing?
Dirty Dancing.
Dirty Dancing, oui.
Ah, pas de jeu d'affrontement.
Et pour vous, les rencontres avec les éditeurs, c'est plutôt Mon Voisin le Tueur ou Les Copains d'abord?
Ça a l'air mitigé.
C'est pas évident.
Ça évolue avec les années.
Et les éditeurs, je suppose.
Et pour le off, on est plutôt sur Une Heure en Enfer ou La Fièvre du Samedi Soir?
Oui, La Fièvre du Samedi Soir.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud dans le off.
Et vous êtes arrivé à rentrer?
Uniquement mercredi.
Ouais, on a fait pareil, effectivement. On n'a pas voulu tenter les autres jours quand on a déjà vu ce que c'était mercredi alors qu'il n'y avait pas grand monde. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et donc, comme je l'ai dit, nous vous recevons en tant que rédacteur en chef de Plateau. Déjà, pour les auditeurs qui ont entendu la précédente interview, pour vous nous rappeler ce que c'est que Plateau.
Donc Plateau, c'est un magazine quasi mensuel qui parle de jeux de société sous toutes ses formes. Et qui est un magazine papier.
C'est un magazine papier, donc, qui parle de jeux de société exclusivement.
Tout à fait. Jeux de société, parfois un petit peu de jeux de rôle. Enfin, voilà, on aborde le jeu vraiment dans une dimension assez large, mais uniquement de jeux.
Et c'est un magazine qui a quel âge aujourd'hui?
15 ans.
Comme on le disait, donc, il y a quelques années, on avait interviewé Hélène Gravelot, qui était rédactrice en chef, et maintenant, vous êtes les rédacteurs en chef. Donc, comment s'est fait cette passation? Qu'est-il advenu d'Hélène?
Eh ben, Hélène a décidé de s'orienter vers le milieu professionnel, en fait, en rejoignant un distributeur. On a eu un petit passage avec une rédaction en chef qui a été assumée par Yves Cavalier, qui était anciennement rédacteur en chef du magazine Le Soir, en Belgique. Voilà, j'avais assuré, du coup, l'intérim avec lui, puisqu'on avait un peu revu les postes avec une rédaction en chef adjointe. Voilà. Et puis, Yves a décidé d'arrêter, et puis, bon. Avec Hunt, on s'est dit qu'il fallait reprendre le flambeau et il fallait revoir un petit peu l'organisation et puis ce qu'on avait envie de faire. Et assez naturellement, on a eu envie de travailler ensemble et de se partager du coup les rôles de manière très complémentaire et donc de partager la rédaction en chef.
D'accord. Et donc on l'a pas précisé effectivement, mais tu viens de le dire, Plateau est un magazine belge.
Oui, l'éditeur est belge en fait. Alors à l'origine en fait, il y a 15 ans, c'était une équipe entièrement belge. Et puis au fur et à mesure des années, les Français s'y sont invités, quelques Suisses aussi. Et donc aujourd'hui, on a donc toujours la cellule de l'édition en Belgique avec Lucas Délé, qui a pris la suite de Didier. Mmh. Et puis l'équipe de rédaction est éclatée un peu partout en France. Un peu partout en Suisse. Il n'y a plus trop de Belges dans l'équipe de rédaction là, en ce moment.
C'est un magazine francophone.
C'est ça.
On avait inventé le travail à distance bien avant le Covid.
Exactement. Et donc, tu citais justement Lucas Délé son prédécesseur, donc Didier, c'est ça? Puisqu'en fait, il y a un lien très fort entre le magazine Plateau et Sit Down. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu l'historique et ce qu'il en est aujourd'hui?
Eh ben, alors sur l'historique, en fait, c'est bien simple. C'est Didier Délé qui a à la fois fondé Sit Down et qui a à la fois fondé Plateau. Avec, il y a eu une entité mégalopole en fait qui réunissait les deux. Et ensuite, il y a eu deux entités qui ont été scindées, avec Sit Down d'un côté et Plateau de l'autre. Donc quand c'était l'époque de Didier, on veillait bien du coup à bien séparer les choses. Par exemple, il était hors de question de pouvoir évoquer ou de pouvoir parler des jeux Sit-Down parce que forcément il y avait une même entité. Et en même temps, dès le début, en fait, Didier a séparé le côté édition, le côté commercial, du côté rédactionnel. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'on porte aujourd'hui. C'est-à-dire avec Hunt, on va s'occuper exclusivement du côté rédactionnel, alors que Lucas va s'occuper du côté commercial du magazine, avec du coup très peu d'interférences entre nous. Par exemple, aujourd'hui, si un éditeur se pose des questions sur la publicité qu'on propose, en fait, nous, on renvoie assez facilement vers Lucas en disant que ce n'est pas notre propos et ça ne nous concerne pas. Et ça nous permet du coup de garder les choses séparées et assez claires. Voilà. Alors après, lorsqu'il y a eu la passation de Didier à Lucas, bon bah du coup les choses étaient un peu plus claires avec Sit Down, donc on a pu commencer à parler, à chroniquer et puis à proposer des dossiers autour des jeux Sit Down, mais bon voilà, les choses sont restées aussi très clairement scindées entre édition et contenu commercial et contenu rédactionnel et éditorial.
D'accord, vous êtes passé de société sœur à société cousine maintenant.
C'est ça.
C'est vraiment des garde-fous qui ont été mis en place au moment où il y avait un lien qui était existant avec Sit Down et qui nous servent beaucoup aujourd'hui, en fait, avec tous les éditeurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement on ne négocie pas les pubs, c'est au moment où nous deux, on fait le chemin de fer, on choisit ce qu'il va y avoir dans le magazine, on ne sait pas et on ne souhaite pas savoir quelles sont les pubs qui ont été réservées pour le numéro, avec quels éditeurs il y a moins de pubs en ce moment, donc peut-être il faudrait... On n'a aucune de ces informations et on n'est pas tenté de les utiliser.
Ça rejoint un petit peu une de mes questions. Aujourd'hui, dans Plateau, il n'y a pas de publié rédactionnel.
Non.
On est sur des articles purs, complètement indépendants de demandes d'éditeurs.
Tout à fait. On a des éditeurs qui sont interviewés dans le magazine. On a parfois des personnes extérieures au magazine qui viennent présenter un carnet d'auteurs. Donc, ce n'est pas uniquement les rédacteurs. Des fois, vous pouvez trouver des plumes qui ne sont pas les rédacteurs habituels. Mais par contre, il n'y a absolument aucun publié rédactionnel. Il n'y a aucune proposition d'éditeur pour venir mettre un article dans le Plateau. C'est nous qui allons chercher s'il y a des choses qui nous semblent intéressantes.
D'accord.
Et comment vous choisissez justement vos articles? Comment se fait ce travail de sourcing quelque part?
On est à l'intersection de deux choses. La première chose, c'est les envies de l'équipe. Parce qu'on n'est pas sur une équipe bénévole, mais on est tout de même sur des personnes qui ont tous une profession à côté, qui ont un temps à consacrer à Plateau. Et il faut cet enthousiasme des sujets qu'ils ont envie de traiter, des sujets qui leur tiennent à cœur, pour qu'on fasse la qualité qu'on espère faire. Par ailleurs, si Vincent ou moi, on repère un sujet qui nous semble intéressant et dont on se dit « là, il y a quelque chose à aller chercher », on a la possibilité de solliciter les membres de l'équipe pour savoir qui veut s'en saisir et de co-construire ensemble.
Et l'équipe, elle est composée de combien de personnes ?
Une dizaine.
Avec des profils tous très différents, très complémentaires, des domaines de compétences et d'expertise dans les mécaniques de jeu, dans les thématiques du coup très différentes, qui nous permettent justement comme ça de se nourrir d'une part de personnes qui ont des expertises, mais également en fait de personnes qui vont avoir un avis complémentaire, mais qui n'est pas un avis professionnel lié à l'industrie et au monde du jeu.
Donc effectivement, tous les rédacteurs sont des personnes hors monde du jeu, quoi, qui font ça. Bénévolement d'ailleurs ou rémunéré à la pige, comment ça marche?
Rémunéré à la pige ou parfois par la boîte en service presse, ça dépend, on a plusieurs modèles qui coexistent. D'accord. Dans le magazine. Et effectivement, ce sont que des personnes qui sont majoritairement hors du monde du jeu. Évidemment, comme toutes les personnes du monde du jeu, ils peuvent être amenés parfois à animer sur un salon ou à s'impliquer très fortement dans un club ou quelque chose. Dans l'ensemble, il me semble qu'à chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui a travaillé pour un éditeur, tout de suite, la personne a d'ailleurs elle-même pris les devants pour ne plus être dans le magazine.
Ah, carrément. C'est pas « je parle plus des jeux de cet éditeur-là », c'est carrément « il s'écarte du magazine ».
On a eu les deux tendances, hein. C'est-à-dire que quand c'était vraiment un lien très fort un lien professionnel, on parlait d'Hélène tout à l'heure, voilà, Hélène a rejoint l'équipe d'Atalia, donc elle est sortie de l'équipe de Plateau. Et quand c'est par exemple un auteur qui va travailler sur un contrat d'édition bien particulier, là il peut tout à fait rester dans l'équipe, c'est juste qu'il sera plus mandaté pour pouvoir chroniquer, pour pouvoir parler de cet auteur-là, ou alors avec un regard du coup qui n'est pas un regard subjectif ou sur lequel il va y avoir un avis. On sépare les choses comme ça quand c'est nécessaire.
On comprend bien, on a à peu près la même ligne directrice au sein de ProxyJeux.
Dernièrement, il y a eu la hausse du prix du papier très très forte. Comment vous avez géré ça?
Et d'ailleurs, comment vous gérez ça encore aujourd'hui? Parce que je pense que c'est pas terminé ce genre de...
C'est en train de se tasser, a priori, mais c'est pas terminé et surtout ça n'a pas redescendu. Et c'est vrai que c'est un énorme coût pour un magazine papier. On a géré ça notamment, on a fait une augmentation du tarif de l'abonnement et du tarif du magazine qui est due en partie à cette crise du papier, à l'augmentation du prix du papier, en partie au fait qu'on n'avait pas augmenté les frais de port depuis un certain nombre d'années. Or, la Poste, elle, avait augmenté ses frais. Du coup, voilà, on a eu cette augmentation récente. C'est à peu près ça. Et jusque-là, on s'en sort. L'équilibre est respecté.
Parce qu'on a aussi, du coup, des abonnés qui nous suivent et avec intérêt. On a une constante légère augmentation de notre nombre d'abonnés. Donc, au moment de la crise Covid, ça a été quelque chose de plutôt réconfortant de voir que, il y avait toujours une demande à ce niveau-là. Et puis, c'est ce qui nous accompagne aussi dans l'évolution du magazine. À savoir qu'on a ces abonnés qui nous suivent et qui suivent les orientations et les changements qu'on peut proposer.
Et justement, on va parler un peu de chiffres. Combien d'abonnés, combien de tirages plateau aujourd'hui?
On tire à 2000 exemplaires.
Et sur ces 2000 exemplaires, c'est quoi la part des abonnés? Et quels sont vos canaux de distribution aussi?
On est distribué en boutique par Gigamic. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on a changé.
Oui, un petit peu plus. C'est ça.
Voilà, on est distribué en boutique de jeux et sinon beaucoup d'abonnements et vendus sur salon. Il y a pas mal de gens qui viennent acheter des magazines à l'unité aussi sur le salon qui en profitent pour rattraper.
Effectivement, parce qu'on ne vous trouve pas en magazine presse, c'est pas diffusé comme un magazine traditionnel.
Non, la distribution presse, c'est d'autres frais et c'est clairement pas possible à notre échelle.
Donc quand vous venez faire un salon, vous vous trimballez avec tous les anciens numéros?
On va dire plutôt les magazines sur une année en fait. Voilà, c'est ceux qu'on a la plupart du temps avec nous. Sur les salons, il y a aussi une forte demande au niveau des goodies sur les achats à l'unité. Donc on sait lesquels vont pouvoir être sollicités sur cet argument de vente là. Voilà, on a à peu près.
Il y a des numéros plus anciens, il y en a pas mal qui sont épuisés. Il y en a aussi qui sont disponibles sur notre site internet à l'achat à l'unité.
Depuis quelques mois, l'encart de présentation du jeu a changé. Il fait entre autres apparaître le lieu de fabrication du jeu. Pourquoi ces changements?
Oui, on a eu envie de faire évoluer le pavé info. Alors en fait, vous avez peut-être remarqué que dans Plateau, on n'a jamais eu... Enfin, sur ces dernières années, on n'a pas eu de grands moments. Plateau, nouvelle formule, tout a changé à l'intérieur. On est plutôt sur des petits changements qui s'incrémentent les uns avec les autres, qu'on met en place peu à peu. Sur le pavé information, on avait deux envies. La première, c'était effectivement de pouvoir faire apparaître le lieu de fabrication parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de jeux fabriqués en France, mis en avant par les éditeurs, et que à chaque fois, le faire apparaître dans le corps de l'article, ça devenait redondant. Donc avoir ce pavé info, ça permettait aussi de voir la différence entre Europe et Chine, même si on a beaucoup écrit sur les limites de la mention « made in » quelque part. Donc on les connaît bien, mais on a cette information-là, autant en profiter. L'autre grande évolution du pavé info, c'est la mention « boîte envoyée par l'éditeur ou non », puisqu'on a ces deux modes qui cohabitent au sein de Plateau, la boîte en service de presse ou l'apport personnel du rédacteur ou de la rédactrice. Et c'était aussi quelque chose qui nous semblait important de faire apparaître. La toute dernière évolution de Plateau, c'est qu'on a voulu mettre en avant plus spécifiquement la partie un peu plus opinion du rédacteur à côté de la chronique. Précédemment, on avait les petits contre-avis des différentes rédacteurs et rédactrices pour avoir un peu la variété des points de vue des différents profils dans le magazine. Et là, on a extrait une phrase très représentative de l'article ou une phrase spécifiquement rédigée pour ça, si le rédacteur ou la rédactrice le souhaite, pour que directement, en ouvrant, à côté du meeple coloré qui donne une petite idée de ce que va contenir la chronique, on sache tout de suite quels sont les arguments qui conduisent à ce meeple coloré.
De toutes ces évolutions récentes, on a parlé de la modification de l'encart. Là, on fait ce petit point sur la façon dont on met en avant l'avis du rédacteur ou de la rédactrice. On est toujours preneur de retours. Hein, donc, si parmi les auditeurs et nos abonnés, il y a des retours, on est intéressé par le fait de d'y avoir accès.
Et comment on peut vous faire ces retours? Justement, vous avez un mail de contact ou...
Tout à fait. Qui se trouve dans l'extrait d'ailleurs et a priori dans tous les numéros du magazine.
Ou sur le site internet.
Ou sur le site internet. Pardon, je pense papier en priorité, vous voyez.
Mais je pense que vous ne devez pas recevoir beaucoup de courriers quand même, papier de retour de lecteurs.
Non, ça c'est fini. Depuis quelques années.
Et surtout s'ils envoient le courrier en Belgique, là où vous n'êtes pas visiblement.
Bon, après on communique du coup assez efficacement entre justement Lucas en Belgique et puis le reste de la rédaction. Par exemple, on parlait tout à l'heure des jeux qui arrivent en service presse. Ils arrivent, alors ça c'est peut-être aussi intéressant de l'expliquer un petit peu, hein. Les jeux arrivent du coup en service presse, qu'on les ait sollicités ou pas, et ils vont être redistribués aux différents membres de l'équipe à travers un sondage. Chacun va pouvoir exprimer son intérêt en fonction du type de jeu, en fonction de sa disponibilité aussi du moment, sur le temps qu'il va pouvoir y consacrer, sur le fait qu'il soit intéressé pour écrire au sujet des différents titres qui sont proposés, et ensuite de la Belgique qui sont redispatchés à l'ensemble de l'équipe. Ça rajoute encore un petit peu de temps dans le délai de traitement et ça nous donne encore un petit peu plus de recul, mais ça nous assure de notre côté de la pertinence de la personne qui va recevoir le jeu par rapport à ses capacités à pouvoir le traiter, par rapport tout simplement à son attrait et à son intérêt pour le jeu.
Et on a parlé justement du statut de vos rédacteurs, mais est-ce que vous cherchez du monde et comment est-ce qu'on devient chroniqueur chez Plateau ?
Alors actuellement, on ne cherche pas particulièrement. On a une équipe stable et une équipe plutôt complémentaire. Néanmoins, on est toujours ouvert à toute nouvelle plume qui voudrait nous rejoindre. Généralement, on demande aux personnes qui veulent se prêter à l'exercice du recrutement d'être bien au courant de ce que Plateau propose. Hein. Plateau, ce ne sont pas que des chroniques de jeux comme on peut le trouver sur Internet, c'est des dossiers analytiques, des dossiers thématiques sur ce qu'est le jeu de société et sur son évolution. Donc on a souvent un petit exercice d'entrée qui consiste en fait en une chronique et puis une proposition de dossier attenant pour être certain que la personne comprenne bien la ligne éditoriale de Plateau.
Parce que chaque chroniqueur va aussi bien faire des reviews de jeux que des dossiers.
Oui, c'est notre volonté en fait. Hein. On a dans le magazine des chroniques pour des chroniques parce que c'est aussi un type de contenu qui est attendu par nos lecteurs et par nos abonnés. Mais ce qui nous distingue le plus aujourd'hui dans l'offre presse, ce sont ces dossiers avec la chronique, mais accompagnée d'interviews ou accompagnée d'articles de fond, de manière à prendre un petit peu de recul sur ce qui est aujourd'hui proposé dans l'industrie du jeu de société.
C'est un point important peut-être qu'on peut élaborer dessus, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'on ne va pas courir après Internet. Pour ce qui est de voir un truc en salon et de sortir un article le lendemain, ils seront toujours plus forts que nous, c'est certain. Par contre, nous, forcément, un numéro, on va passer un mois et demi, deux mois dessus. Tant qu'à faire, autant passer un mois et demi, deux mois, voire trois, quatre mois dans le cadre de certains articles, à creuser un sujet, à aller interroger, par exemple, 15 personnes en parallèle pour pouvoir faire une réunion d'information qui est vraiment du corps. Et on considère que c'est vraiment ça l'ADN de Plateau, d'où l'importance qu'on met au dossier.
Et est-ce que vous pensez que c'est ça que viennent chercher vos lecteurs ? Est-ce que vous avez des retours de la part de vos lecteurs sur ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins dans votre magazine ?
On a fait une enquête auprès de nos abonnés, il y a 3 ans, je crois, à peu près quand on a pris la rédaction en chef tous les deux. On avait eu des retours assez variés, en fait. On avait fait une petite liste de quelles sont vos rubriques préférées. Il y en avait, les chroniques ressortaient, les dossiers ressortaient, mais toutes les petites rubriques du magazine avaient leurs fans. Donc vraiment, cette variété, je pense, est aussi une de nos forces. Par contre, assez régulièrement, quand on fait des gros dossiers très fouillés, on a des retours dessus de gens qui sont contents de trouver ça parce qu'effectivement, ils nous disent qu'ils ne le trouvent pas ailleurs.
On avait par exemple dans un des récents numéros un dossier sur la subjectivité des prix, voilà, avec une enquête qui avait été menée au sein de différents jurys et on a eu de nombreux retours suite à l'apparition de ce dossier.
Et justement, tu as abordé le fait de ne pas courir après Internet, mais aujourd'hui, Plateau, c'est vraiment que le magazine papier. Vous ne faites pas une version numérique disponible sur votre site payante, hein, on pourrait imaginer un abonnement numérique comme certains magazines le font. C'est pas une volonté comme ça de s'ouvrir et de rester en papier.
C'est un projet.
Oui.
Et on vous dira plus tard, après, quand on aura des infos sur quand ça sort, si effectivement ça peut être un projet dans le cadre de cette interview, mais c'est un projet.
D'accord, très bien.
On parlait des dossiers là tout à l'heure, il y a quelque chose sur lequel on peut revenir aussi, c'est en termes de lectorat, la diversité des publics en fait et des lecteurs que nous allons avoir. Sur par exemple le dossier des tours ambulantes dans notre dernier numéro, on a à la fois la chronique du jeu, on peut avoir aussi des interviews des professionnels, on a aussi des papiers qui décortiquent un peu l'édition. Là en fait aujourd'hui, lorsqu'on a un jeu avec différents modes, du compétitif, du coopératif et un jeu par équipe, quel est l'impact éditorial et quels sont les enjeux. Et on a aussi derrière dans ce dossier un papier sur la rejouabilité. Aujourd'hui, c'est un argument commercial qui est un peu assonné à tous les niveaux, aussi bien au niveau du ludicaire qu'au niveau des éditeurs et puis même des auteurs sur les contenus qui sont produits. Et ben là, on a voulu se placer du point de vue des joueurs pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle rejouabilité et qu'est-ce qui est attendu par les joueurs en termes de rejouabilité. Et à travers ces dossiers, on essaye justement de concerner un peu tous les types d'électorats qu'on peut avoir et tous les points de vue pour justement avoir un dossier assez riche et assez fourni autour des jeux qu'on peut proposer.
Alors, vous parlez de vos anciens dossiers. Est-ce qu'il existe une base des articles et des thèmes abordés qu'on pourrait retrouver sur Internet, histoire de savoir dans vos anciens numéros lequel aller piocher si on a envie d'entendre parler de tel auteur ou de tel illustrateur ?
Sur notre site web, il y a les sommaires des différents numéros. tout simplement. Donc,
est-ce qu'on peut faire une recherche ?
Par contre, non. A priori, il n'y a pas de recherche possible. On a eu à un moment une base de données, mais je crois qu'elle n'est plus à jour depuis un moment, qu'on garde uniquement les sommaires les plus récents.
Ok.
Par contre, n'hésitez pas à demander. Nous, on a une base dans laquelle on peut faire des recherches facilement et on sera très content de vous indiquer des numéros qui peuvent vous intéresser.
Il y a certains chroniqueurs de dossiers chez nous qui seraient intéressés pour faire des recherches
tout à fait.
Rapidement. On l'a dit tout à l'heure, vous étiez bien décorrélé des éditeurs. Est-ce qu'il y a quand même des notions de timing sur lesquelles vous mettez peut-être d'accord avec eux, ou peut-être des notions de NDA même, où vous auriez des jeux en avance par rapport à leur sortie et que vous ne pourriez pas aborder avant une certaine date ?
Très peu, parce qu'en fait le format papier nous oblige généralement à écrire 2 mois avant la parution de nos articles, donc on peut avoir un petit décalage sur certains jeux auxquels on a accès en fait dans la version originale. On peut là du coup solliciter l'éditeur pour connaître les dates de parution, de manière à faire coïncider la parution de nos articles avec la date de parution des jeux. C'est pour nos lecteurs en fait l'envie d'avoir le contenu le plus proche et de pas promettre quelque chose qui ne viendra que quelques mois plus tard. On a en ce moment, avec les petites difficultés sur la planification des dates de sortie, besoin de temps en temps de s'accorder avec les éditeurs à ce niveau-là. Ça peut nous arriver de temps en temps d'avoir accès en amont en fait à un prototype, mais c'est plutôt rare en fait, et c'est pas forcément notre volonté que de vouloir coller systématiquement à la date de sortie. On préfère prendre le temps d'analyser, de jouer, et puis si on a 2, 3, 4 mois d'écart par rapport à la date de sortie, mais on estime que le jeu mérite un dossier ou mérite de faire la couverture, et ben c'est tout dans l'intérêt du lecteur.
C'est un peu en décalage probablement par rapport au milieu ludique actuel où effectivement les jeux sortent, ils durent un mois, ils sont oubliés après. Si on peut faire en sorte que des jeux qu'on estime très bons ressortent un peu de terre 3 mois après, nous c'est vraiment quelque chose qui va nous convenir.
Oui, de toute façon on voit bien que dans Plateau le nombre d'articles est assez réduit aussi par rapport à la pléthore de jeux qui sort. Il y a déjà une présélection qui est faite sur les plus intéressants, je suppose.
Les plus intéressants, oui, mais les plus intéressants ce n'est pas forcément les meilleurs. L'idée c'est d'avoir quelque chose à dire sur le jeu, et effectivement si c'est dire que c'est un raté, c'est aussi quelque chose qu'on va faire. Ou si il y avait un super potentiel mais que le jeu ne vit pas à la hauteur de sa promesse, c'est un article qui va paraître. Effectivement, parfois on élimine des choses dont on se dit bon bah voilà, ça c'est moyen, mais tout le monde sait très bien que c'est moyen.
D'accord.
La question ne se pose pas.
Et justement, il vous arrive de faire des reviews négatives et d'avoir des retours des éditeurs pas contents ou...
Dans l'ensemble, je dirais que le milieu est quand même plutôt sympathique, donc des retours des éditeurs vraiment pas contents, c'est très rare.
Mmh. Et un peu pas content ?
Mais un peu pas content, oui, en fait, ça nous arrive, hein, dans la relation qu'on peut avoir de temps en temps. Alors, on a par exemple, en fait, un biais, c'est qu'on envoie systématiquement les PDF, en fait, des articles aux éditeurs, qu'ils aient connaissance de ce qui va apparaître, du coup, au sujet de leur jeu en amont. Nous, on ne demande pas de retour. Certains nous en font de temps en temps. On les écoute ou pas en fonction de l'intérêt du retour qu'on peut avoir.
On écoute une phrase mal formulée qui ne permet pas de bien comprendre la règle. Ça, évidemment, on a déjà publié des erratum en première page du magazine quand ça se passe. Le point de vue d'un éditeur sur ce qu'on a raconté sur son jeu en matière d'opinion, très bien, on veut bien l'entendre. Hein, surtout si ça lui fait du bien de l'exprimer, mais ça ne va rien changer.
Et est-ce que ça a pu changer, par exemple, les envois de boîtes ou ce genre de choses ?
Pas sur des exemples récents, là, en fait. On est sur des relations sur le long terme. Et puis, comme on le disait tout à l'heure aussi, l'envoi de boîte, pour nous, n'est pas du tout... Enfin, ne conditionne pas le fait d'en parler. Et on parle assez régulièrement de jeux qui ne nous sont pas envoyés aussi. Voilà. Là aussi, on décorrèle le plus possible la relation qu'on a par rapport à l'envoi de boîte.
Parce que la proportion entre les jeux que les éditeurs vous envoient et celles que vous achetez, elle est de...
Ah, j'ai pas mes stats sur moi, je peux les sortir si vous voulez. Parce que pour le coup, depuis qu'on a fait ce mention fournie par l'éditeur ou non, on en a profité pour faire des stats. J'aime bien les stats.
Et là, en off, on pourrait dire aussi qu'on fait des stats nous aussi après sur les notes qui sont données au jeu en fonction de le...
Voilà. C'est pas très off, on l'a publié, tu sais.
Oui, pardon.
Des stats sur les notes, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'origine de la boîte, on a voulu nous s'interroger sur l'impact que ça avait sur l'équipe, sur le fait de dire, bah voilà, lorsqu'on reçoit le jeu, bah quelle est la moyenne des notes qui est donnée, et puis lorsque c'est nous qui suggérons, en tout cas quand c'est les rédacteurs qui suggèrent de vouloir parler d'un jeu, bah quel impact ça a du coup sur les notes.
Et du coup, le résultat de ça ?
Eh ben,
Alors, ma feuille Excel n'est pas d'accord avec moi. Par contre, le résultat de ça, c'est un article qui a été publié, en fait, je dirais dans le 152. 52. Ça doit être ça.
Donc c'est tout récent.
C'est tout récent, puisque là, c'est le 153.
D'accord.
Le résultat principal, c'est que globalement, les notes sont un peu moins bonnes pour les jeux qui ont été envoyés par les éditeurs par rapport aux jeux que l'équipe a choisi de traiter. Ce qui s'explique assez facilement par le fait que quelqu'un qui dit « j'ai envie de traiter cette boîte », c'est souvent parce que c'est un coup de cœur, ou c'est en tout cas parce qu'il ou elle a passé assez de temps dessus pour savoir déjà qu'il a envie d'en parler par rapport à une boîte qui est envoyée par un éditeur sur laquelle on s'engage de toute façon à passer du temps.
Je voulais revenir un peu sur le contenu du magazine. Donc on voit qu'il y a quelques publicités dans le magazine. Donc ce sont des publicités très orientées jeux, hein, on voit pas d'autres...
Uniquement orientées jeux.
Voilà, c'est une volonté donc d'avoir que des publicités jeux au sein du magazine.
Oui, c'est une volonté. Puis on a un nombre de pages, enfin un nombre de publicités plutôt limité aussi. Hein, donc on...
Quel est l'apport de la publicité dans le magazine? Parce que comme tu l'as dit, il y en a très peu. C'est nécessaire au fonctionnement du magazine, je suppose, mais est-ce que c'est vraiment prépondérant sur les revenus de plateau?
Alors, sur la partie justement commerciale, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est plutôt Lucas.
Effectivement, voilà, merci de le rappeler.
qui peut répondre à ce genre... Oui, alors en fait, c'est essentiel. Hein. Enfin voilà, c'est dans le modèle de fonctionnement, dans le modèle économique de plateau. Donc, on a pour objectif chaque mois de prévoir un nombre de pages précis du coup pour les publicités. Dernièrement, j'ai plus trop la date, on a augmenté de 4 pages le contenu du magazine en ajoutant aucune page dédiée à la publicité. C'était des pages qu'on appelle des pages de garde pour introduire un peu plus facilement la notion de dossier, pour qu'elle la rende un peu plus visible. Et donc ces 4 pages qui ont été ajoutées se destinent avant tout à la présentation du dossier, puis à une part plus importante de l'illustration avec une contextualisation, un texte qui introduit du coup le dossier et l'angle qu'on a voulu prendre sur ce dossier.
Qui permet parfois de tirer un fil rouge tout le long du magazine. Par exemple, sur le numéro 153, on vous disait tout à l'heure qu'il y avait ce dossier sur les tours ambulantes dans lequel on rentre sur la question de la rejouabilité. Et dans l'intégralité des pages de garde du magazine, on revient un peu sur cette notion. On a un dossier sur les jeux abstraits qui, en matière de rejouabilité, sont une figure très particulière où, tiens, on ne change rien au début de la partie et pourtant c'est hyper rejouable. On a un dossier plutôt sur Skymines, où là, par contre, il y a eu une volonté d'apporter du renouvellement par l'éditeur dans la réédition. Donc on va utiliser ces pages de garde, justement, pour pouvoir faire des liens d'un dossier à l'autre.
Et puis aérer le magazine aussi,
visuellement. D'un point de vue visuel, oui, ça a été une chouette avancée.
Comment communiquez-vous sur le magazine, vu que le monde du jeu et que le nombre de joueurs s'étend? Comment vous faites pour essayer d'aller toucher ces nouveaux venus au monde du jeu?
C'est un domaine dans lequel on a encore beaucoup à apprendre. Ces dernières années, on a une partie de notre lectorat et de nos abonnés qui ont évolué aussi. On a de plus en plus de professionnels, on a de plus en plus de médiathèques, de ludothèques, de boutiques, de bars à jeux. Donc on a conscience que quand c'est un numéro qui est posé à un endroit et qui est découvert, ça touche beaucoup plus de personnes que le numéro qui va arriver directement dans un foyer. Donc on sait que c'est aussi à travers ce type d'abonnement-là qu'on va avoir une diffusion de l'information. On essaye d'être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Voilà, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, on apprend là aussi à trouver notre place et trouver la façon de communiquer, sachant qu'on n'a pas pour volonté de produire du contenu spécifique pour ce type de médias. Et ensuite, on a la présence sur les salons, on a la présence aux différents événements. Là, sur Cannes, on présente le X-Tray. Donc, on le diffuse gratuitement aux tout venants sur le salon pour leur faire découvrir la façon dont Plateau traite le jeu de société à travers le dossier de couve qui est extrait et qui est proposé gratuitement aux lecteurs.
On est également à Paris et Ludique, qui est un festival qui essaie de toucher justement pas mal les nouveaux entrants, le public pas forcément encore gamer. Donc ça permet d'être visible.
En type de salon, vous faites donc PEL, Paris et Ludique, et Cannes, c'est les deux seuls salons sur lesquels vous êtes présents?
Régulièrement, actuellement, oui. Il fut un temps, il me semble, où Lucas était présent au Bruxelles Game Festival.
À Essen aussi, il y a eu des années où on était présent. C'était à l'époque peut-être où on avait un lectorat beaucoup plus belge centré que le lectorat qu'on a maintenant. Donc à Essen, il y avait beaucoup d'abonnés belges qui venaient renouveler leur abonnement. Voilà. Aujourd'hui, en fait, sur Essen, on n'est plus présent.
Ça, c'est en matière de stand. Après, les t-shirts Plateau sont visibles sur plein de festivals à travers la France. C'est aussi l'avantage de cette équipe répartie un peu partout.
Et maintenant, on va en venir quand même à la chose capitale du magazine,
qui
sont les goodies.
Ah.
Comment vous les récupérez? Quel est le lien avec les éditeurs par rapport aux goodies?
Alors, on essaye avant tout de définir, en fait, quel est l'intérêt du goodies pour le lecteur. On a deux types de goodies. On va avoir les kits de démo, les kits pour découvrir le jeu. Là, récemment, on a celui de Spito, sur lequel on avait eu beaucoup de retours positifs. C'était une petite version démo du jeu. On pouvait le découvrir jusqu'à 4. On a eu aussi, dans ce type-là, beaucoup de scénarios de démonstration qui ont été appréciés par les lecteurs. Et là, forcément, tout le monde est gagnant, puisque, alors, pour être bien clair, c'est financé par l'éditeur. Nous, on assure le côté distribution du goodies. Tout ça dans l'intérêt du lecteur. Si à un moment ou à un autre on estime qu'on va pas dans ce sens-là, et ben en fait le goodies nous intéressera pas. Le deuxième type de goodies qu'on va avoir, c'est la carte alternative. C'est, alors on peut avoir juste du visuel qui va être un peu différent. Là, ça vient quelque part embellir le jeu et puis proposer juste ce visuel un peu différent. Ou on peut avoir une petite modification de règles avec un ajout un peu différent, avec une petite modularité qui peut être proposée.
Et dans tous les cas, ce sont des goodies répandus ou il y a des goodies exclusifs pour Plateau qui sont créés?
Alors, on réfléchit beaucoup à la chose. On vous a donné tout à l'heure un peu nos chiffres de diffusion. On est sur 2000 exemplaires et l'exclusivité, du coup, serait peut-être un petit peu dangereuse à la fois pour les éditeurs, aussi pour les joueurs, puisque du coup, on est conscient qu'on pourrait entraîner une spéculation, du coup, sur ces goodies si on les rendait exclusifs. Donc, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, avec les éditeurs, souvent, on travaille un peu la complémentarité de la diffusion. Typiquement, si c'est un goodies qui est proposé uniquement sur un salon, il peut être aussi proposé du coup à travers la diffusion du magazine. Et là, pour les joueurs, ça donne deux possibilités de pouvoir se le procurer, soit en se déplaçant sur un lieu, soit du coup en s'abonnant ou en commandant le numéro. On évite le côté... Alors, on en a eu quelques-uns d'exclusifs. D'ailleurs, c'est les numéros qui ont été en rupture très, très rapidement. et en fait, ça ne sert personne puisque ça va entraîner bien plus de frustration que ça ne va contenter de personne.
Oui, vous ne boostez pas le tirage, justement, quand vous avez des goodies exclusifs comme ça, de manière à vendre plus. Plutôt, vous nous disiez que la base de lecteurs augmentait légèrement ces derniers temps. Est-ce que vous avez eu une baisse à un moment? On sait qu'il y a eu une certaine crise dans le monde de la presse, que la presse est un peu délaissée au privilège d'Internet. Est-ce que vous avez quand même constaté cette baisse ou est-ce que c'est toujours été une montée régulière pour Plateau?
On a eu une évolution, en fait, légèrement croissante. Il y a eu une époque où, en fait, avec l'arrêt d'autres magazines, je pense à Jeux sur Plateau, par exemple, on pensait qu'il allait avoir un report d'abonnés d'un magazine vers l'autre. On n'a pas du tout eu ce phénomène-là. Donc, on est resté en constante légère augmentation depuis, en tout cas depuis 10 ans. Mais sans avoir, du coup, de chute ni d'augmentation très forte. Mais par contre, on a senti une évolution du lectorat. Là où on avait un public du coup très expert il y a quelques années, ça s'est beaucoup diversifié. J'en parlais tout à l'heure, du coup il y a eu l'entrée des professionnels en fait qui se sont aussi abonnés. Alors on a eu une période où les professionnels s'abonnaient pour eux-mêmes en fait, pour avoir Plateau en tant qu'outil de veille, outil de suivi et puis savoir un petit peu ce qui se faisait. Et là du coup c'est d'autres types de professionnels dont je parlais tout à l'heure qui se servent de Plateau comme un vecteur de communication aussi sur ce qu'est le jeu de société auprès de leur public. On est en constante évolution. On n'a jamais eu d'un numéro à l'autre une fluctuation très importante. On a sur les salons des offres aussi promotionnelles. Enfin là sur Cannes par exemple, on fait en sorte de convaincre le plus de lecteurs possible de se réabonner. Et on a notamment une petite offre promotionnelle sur le salon. Et donc c'est à travers ce type de numéro là qu'on a les plus grosses variations parce que forcément les abonnements un an après tombent et puis les abonnements un an après reprennent. On n'a pas trop de grosses modifications et en fait par rapport à l'évolution globale de la presse, on tire plutôt notre épingle du jeu.
On a pas mal de retours de lecteurs qui tiennent au papier en fait. Justement nous on a ce temps posé de la préparation du magazine papier et je crois que ça va avec une forme de temps posé de la lecture du magazine papier. Que ça fait pas de mal à certaines personnes, du moins qu'ils ont envie de se détacher justement de l'immédiateté de cet écran et d'avoir ce magazine qu'on picore morceau par morceau tout au long du mois. Et puis évidemment, pour les abonnés professionnels comme les ludothèques, c'est un numéro pour plusieurs personnes et c'est tout à fait pratique de pouvoir se passer ce magazine de main en main.
Tu parlais précédemment d'autres magazines de jeux de société. On a vu apparaître Canard PC jeux de société très récemment, je ne sais plus quand, mais ça n'a pas eu d'impact visiblement sur vos lecteurs non plus. Alors.
Ça a eu un tout petit impact sur l'équipe puisque je fais partie de Canard PC hors série.
Ah.
Mais effectivement, ça fait maintenant 3 ans que Canard PC a rendu ses hors séries beaucoup plus réguliers et non, on n'a pas eu d'impact particulier sur le lectorat de Plateau.
Et est-ce que tu travailles de la même façon pour Plateau et Canard PC?
Ce sont deux styles de rédaction assez différents. mais c'est plutôt dans la rédaction. Pour ce qui est de la veille, l'analyse du jeu en partie, c'est tout à fait la même chose.
Quelle est la différence entre les deux ?
Alors déjà, Canard PC s'adresse à un lectorat beaucoup moins expert. Donc on essaie d'aller traquer le moindre terme un petit peu... Mais on explique Meeple, par exemple, dans Canard PC, ce que, voilà, dans Plateau, on ne fait plus depuis quelques années, je crois. Et surtout, Plateau va être beaucoup plus dans une posture analytique par rapport au jeu, alors que Canard PC, c'est juste de susciter une envie pour la personne d'aller s'intéresser à ce jeu et n'éprouve pas le besoin, par exemple, qu'on sache comment jouer au jeu à la fin de l'article.
Et pour vous, Plateau, c'est votre boulot à plein temps ?
Non.
Non, non.
Comment partagez-vous votre temps personnel et votre temps pour Plateau, vu que ce n'est pas votre métier ? Vous y accordez beaucoup de temps, je suppose ?
Alors, moi, Plateau, c'est quasiment un mi-temps dans ma semaine, sachant que à côté, je suis à mi-temps, donc c'est tout à fait facile à caler. Ce n'est pas le cas. Je pense que je suis la seule dans l'équipe à être dans cette situation et que les autres sont plutôt à temps plein, notamment Vincent.
Oui, moi du coup j'ai travaillé en ludothèque pendant un bon moment, je me suis réorienté récemment en médiathèque, je m'occupe de la presse en médiathèque, donc ça me permet aussi de croiser, enfin tout comme je croisais avec le jeu en travaillant en ludothèque, là ça me permet de croiser de manière assez intéressante et de manière complémentaire, mais c'est effectivement un emploi à temps plein et donc le Plateau vient se greffer, s'articuler, s'inviter dans toute cette organisation personnelle, voilà, mais c'est plutôt riche et du coup c'est plutôt agréable de pouvoir, comme ça, en fait, naviguer avec différents regards.
Je pense qu'on a fait le tour.
Je crois.
Bon. Puis le temps passe vite.
Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ?
Non, moi, je crois pas.
Non.
Très bien. Eh bien, merci à vous. Merci de vous être prêté à notre interview.
Oui, merci de nous avoir reçus.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre site internet et notre page Utip. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.